Voilà, alors j'ai intitulé l'étude de cet après-midi « Quand l'intimité avec Dieu semble avoir disparu ». Quand l'intimité avec Dieu semble avoir disparu. Et j'avais envie de commencer cette étude par la lecture d'un texte de la Bible un petit peu long, mais qui me semble pouvoir nous donner une idée de la situation dans laquelle un croyant peut se retrouver parfois. Et je pense que ce passage de la Bible, c'est aussi un des endroits où on peut vers lesquels on peut se tourner quand on a l'impression d'avoir perdu l'intimité avec Dieu. En fait, c'est un texte que Laura a lu dans sa présidence, mais je voudrais le lire en entier. C'est le chapitre 3 du livre des Lamentations. Alors, je vous propose d'en écouter la lecture plus que de la suivre dans votre Bible. Déjà, vous n'avez pas forcément la même version. Et puis, je vous propose aussi de bien essayer d'écouter dans ce texte le fait qu'il y a des paroles qui sont dures. Certaines sont peut-être parmi les plus brutales qu'on trouve dans la Bible. Il y a aussi des paroles qui sont consolantes, peut-être parmi les plus consolantes qu'on trouve dans la Bible. Et certaines sont très mystérieuses. Lamentations chapitre 3. Je suis l'homme qui a vu l'humiliation sous le bâton de son courroux. Il m'a conduit, il m'a fait aller dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a flétri ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti des retranchements contre moi. Il m'a environné d'amertume et de lassitude. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a emmuré pour que je ne sorte pas. Il a fait peser des chaînes sur moi. J'ai beau crier et appeler au secours, il ferme tout accès à ma prière. Il a muré mon chemin avec des pierres de taille. Il a fait dévier mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes pas, il m'a déchiré, il m'a mis dans la désolation. Il a tendu son arc et m'a placé comme une cible pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis devenu la risée de tout mon peuple, tout le jour l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'herbes amères, il m'a abreuvé d'absinthe. Il m'a fait casser les dents sur du gravier. Il m'a enfoui dans la cendre. Tu m'as rejeté loin de la paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur et j'ai dit, elle est perdue ma confiance, mon espérance en l'éternel. Souviens-toi de mon humiliation et de ma vie errante, de l'absinthe et du poison. Mon âme s'en souvient bien. Elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta fidélité. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Qu'il s'assoie, solitaire, et silencieux, car c'est ce qui lui est imposé. Qu'il mette sa bouche dans la poussière. Peut-être y a-t-il de l'espoir. Qu'il tende la joue à celui qui le frappe. Qu'il se rassasie de déshonneur. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande bienveillance. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les fils d'hommes. Quand on foule aux pieds tous les prisonniers d'un pays, quand on fait dévier le droit humain à la face du Très-Haut, quand on fait tort à l'homme dans son procès, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui est celui qui a dit et cela fut? Le Seigneur n'est-il pas celui qui commande? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Examinons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. Élevons notre cœur comme nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons nous-mêmes été criminels et rebelles, et toi tu n'as point pardonné. Tu t'es enveloppé de ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans ménagement. Tu t'es enveloppé d'une nuée pour que la prière ne te parvienne pas. Tu as fait de nous un rebut et un repoussoir au milieu des peuples. Ils ouvrent la bouche contre nous, tous nos ennemis. Pour nous, ce furent la frayeur et la fosse, la destruction et le désastre. Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause du désastre de la fille de mon peuple. Mes yeux ruissellent sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel fasse attention et voie du haut des cieux. Mes yeux me font souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme à l'oiseau. Ceux qui s'en causent sont mes ennemis. Ils ont réduit ma vie au silence dans la citerne et ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont recouvert ma tête. Je disais, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, des profondeurs de la citerne. Tu as entendu ma voix. Ne détourne pas ton oreille quand, pour me soulager, je t'appelle au secours. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, sois sans crainte. Seigneur, tu as plaidé mon procès, tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu mon écrasement, rétabli mon droit. Tu as vu toute leur vengeance, tout leur complot contre moi. Éternel, tu as entendu leurs outrages, tout leur complot contre moi. Les discours de ceux qui se dressent contre moi, leurs projets sont tout le jour contre moi. Qu'ils soient assis ou debout, regarde, je suis l'objet de leurs chansons. Tu leur rendras l'appareil, ô Éternel, selon l'œuvre de leurs mains. Tu leur cuirasseras le cœur, ta malédiction sera contre eux. Tu les poursuivras avec colère et tu les extermineras de dessous les cieux de l'Éternel. L'intimité avec Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous expérimentons toujours de la même façon. Nous pourrions dire que l'intimité avec Dieu, c'est une caractéristique de la vie chrétienne normale. Et c'est pour ça que le Nouveau Testament semble présupposer constamment que nous vivons dans l'intimité avec Dieu. Mais tout n'est pas toujours normal dans la vie chrétienne. Tout n'est pas toujours normal dans le contexte de vie qui est le nôtre. Un théologien parlait de ce qu'il appelait l'anormalisme de la vision biblique du monde. C'est-à-dire, dans la vision biblique du monde, la situation n'est pas normale. Nous ne vivons pas dans un monde où les choses sont normales. Nous vivons dans un monde où les choses sont anormales. Pourquoi les choses sont-elles anormales ? Parce que le péché est entré dans le monde. Et l'une des premières conséquences du péché, ça a été la perte de l'intimité avec Dieu. Dans le livre de la Genèse, quand l'homme et la femme pêchent, il nous est dit, les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus, ils se couvrirent avec des feuilles de figuier, et ensuite, ils entendirent l'Éternel qui arrivait, et ils se cachent. L'intimité a été rompue. Alors que la communion avec Dieu était la joie de leur vie, l'homme et la femme se cachent devant Dieu qui vient à leur rencontre. Malgré la promesse du salut qu'il leur est faite, un jour la descendance de la femme écrasera la tête du serpent, ils sont quand même chassés du jardin. Et l'accès de l'arbre de vie est barré. Le péché est entré dans le monde. Et il faut souligner que même lorsque nous sommes sauvés, l'œuvre de renouvellement, de rénovation de notre être intérieur n'est que commencée. Ce n'est que le début. Nous sommes encore en travaux. Les choses ne sont pas achevées en nous. Le renouvellement de notre être intérieur est seulement commencé. Et quant à la rédemption de notre corps, et du reste de la création, elle est future. Nous soupirons, nous attendons la rédemption de notre corps, nous attendons la libération de la création. Le péché est entré dans le monde, même lorsque nous sommes sauvés, nous n'avons que le début du fruit du salut. Et puis enfin, nous restons placés au sein d'un monde mauvais. Et nous subissons les attaques d'un adversaire. Et tout cela fait que nous vivons dans un contexte qui n'est pas normal. Dans un monde normal, il n'y aurait pas de péché. Dans un monde normal, nous serions parfaitement en communion avec Dieu. Dans un monde normal, notre corps fonctionnerait normalement et le reste de la création fonctionnerait normalement. Dans un monde normal, le monde de l'humanité qui nous entoure serait un soutien pour nous aider à nous approcher de Dieu et pas une opposition qui nous met des bâtons dans les roues constamment et nous ne serions pas constamment sous les accusations, les tentations, les afflictions venant du diable. Et ce dont je voudrais parler avec vous cet après-midi, c'est de trois types de situations dans lesquelles il peut arriver que l'intimité disparaisse avec Dieu, ou qu'elle semble avoir disparu, à tort ou à raison. On a l'impression que l'intimité avec Dieu a disparu. Trois situations différentes. Les deux premières sont peut-être deux variantes de la même situation, mais elles sont suffisamment différentes pour que je les traite à part. Et la première situation, je dirais, il arrive que nous cherchions à aller plus loin que l'Évangile. Je vais expliquer ce que je veux dire par là. L'intimité avec Dieu est liée à la grâce de Dieu. Nous l'avons vu ce matin. C'est par grâce que Dieu rétablit son alliance une fois qu'elle a été brisée. Et elle est rétablie sur d'autres bases. C'est une alliance de grâce qui passe par l'œuvre de Jésus, par sa vie, par sa mort et par sa résurrection. Et par l'œuvre du Christ qui nous est appliquée par le Saint-Esprit, nous sommes enfants de Dieu et nous appelons Dieu Abba, Père. L'intimité avec Dieu est liée à la grâce de Dieu. Elle fait partie de l'Évangile, la bonne nouvelle. Et il est particulièrement important de comprendre que cette intimité avec Dieu découle de la justification gratuite que Dieu nous offre en Christ. C'est-à-dire du fait que Dieu nous accueille, il nous déclare juste sur la base, non pas de notre justice à nous, mais de la justice du Christ. Il regarde le fait que Jésus a obéi à la loi. Et il regarde le fait que Jésus a subi la malédiction de la loi à notre place, et c'est ça qui met à notre compte. Et il nous déclare juste à cause de cela. Et il nous accueille dans sa présence à cause de cela. Et il nous donne l'intimité avec lui à cause de cela. Et je crois que l'expérience montre que ce qu'on pourrait appeler la connaissance pratique de la justification est fragile. Et je dis connaissance pratique par opposition à une connaissance qui serait seulement théorique. Nous sommes souvent tentés d'agir de manière insensée et après avoir commencé par l'esprit, d'essayer de terminer ou de parvenir à la perfection par nos propres ressources, par ce que la Bible appelle la chair, plutôt que de dépendre du fait que Dieu nous donne continuellement son esprit. C'est ce que Paul écrit aux Galates au chapitre 3. Dans les versets 1 à 5. Et je voudrais lire ce passage avec vous. Galates, chapitre 3, versets 1 à 5. Ô Galates insensés, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec vous, avec foi? Êtes-vous tellement insensé? Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous fait tant d'expériences en vain? Si du moins c'est en vain. Celui qui vous accorde l'esprit, on pourrait traduire presque plus littéralement celui qui vous fournit l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Il peut arriver que, après avoir reçu gratuitement le salut, nous nous disions « Maintenant, le reste de ma vie chrétienne, c'est par mes propres forces. Maintenant, le reste de ma vie chrétienne, je vais la mener en obéissant avec les forces que j'ai en moi-même, plutôt que d'écouter avec foi la parole de l'Évangile. » Et quand nous faisons cela, ça nous conduit à perdre notre joie. Ça entrave notre vie chrétienne. Et ça nous amène à vivre comme des esclaves plutôt que comme des fils et des filles qui bénéficient de l'intimité avec Dieu. Paul le dit aux Galates. Il leur dit, mais quand je suis venu chez vous et que je vous ai prêché l'Évangile pour la première fois, vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ. Et il leur dit, où est l'expression de votre bonheur? Je peux même vous rendre ce témoignage qu'à l'époque, vous auriez été capable de vous arracher les yeux pour me les donner. Certains ont tiré de ce texte l'idée que l'apôtre Paul souffrait d'une maladie des yeux. D'ailleurs, il dit « C'est à cause d'une maladie que je vous ai annoncé l'Évangile pour la première fois. » Et à la fin de la lettre, je crois que c'est dans Galates, il dit « Voyez avec quel gros caractère je vous ai écrit. » Donc, c'est une hypothèse. Mais en tout cas, il arrive et il leur dit « Mais vous étiez tellement heureux quand l'Évangile vous a été prêché. Et vous avez perdu votre joie parce que vous êtes parti sur vivre par vos propres ressources. » Chez les Galates, C'est quelque chose qui se manifestait par une tendance à judaïser, à donner une valeur religieuse à des rites ou à des pratiques que la Bible ne prescrit pas comme obligatoires. Et je pense qu'on pourrait trouver aussi, même dans nos églises évangéliques, des choses du même type. Je pense qu'on peut avoir parfois un certain nombre de pratiques qui parfois en elles-mêmes sont très bonnes, auxquelles nous allons accorder une valeur religieuse et dire c'est Dieu qui nous dit de faire cela et si nous ne le faisons pas, nous risquons de ne pas être bénis. En poursuivant la réflexion, je pense que nous pourrions aussi parler de l'activisme qui caractérise à bien des égards le monde évangélique. Activisme dans l'évangélisation. Activisme pour d'autres dans le domaine social. Activisme pour d'autres dans les activités d'église. Il arrive que nos activités perdent leur ancrage dans la grâce et ressemblent de plus en plus aux activités du fils aîné de la parabole du fils prodigue. Vous savez, celui qui, quand il voit la fête de la grâce, dit « c'est pas normal, ça fait des années que je te sers, et pour moi, rien ». Il y a une grande différence entre le fait d'être actif d'une manière saine, en faisant tous ses efforts pour plaire à Dieu, et l'activisme qui menace d'éclipser notre intimité avec Dieu. Une grande différence qui peut être difficile à voir dans la pratique, mais qui est réelle. Et je voudrais l'illustrer avec une image que j'ai trouvée dans un livre sur laquelle je vais un peu broder. Et je pense qu'elle vous dira quelle est la différence entre l'activité, qui peut demander même beaucoup d'efforts, que Dieu nous demande, et l'activisme, qui nous coupe de la grâce. Imaginez un homme dans une pièce qui est en train d'écouter de la musique. Il est content d'écouter de la musique, c'est de la musique qu'il aime, et son corps réagit, donc il danse spontanément, et voilà, il est heureux, peut-être il va y mettre une certaine énergie même. Arrive un autre homme dans la même pièce, cet homme est sourd. Il voit les mouvements de l'autre, il ne sait pas trop ce qui se passe, mais il se dit « Ah mais, il a l'air d'être content, je vais essayer de faire pareil ». Au début, c'est un petit peu maladroit. Et puis, avec un peu d'entraînement, ça y ressemble beaucoup. Arrive un troisième homme, et il voit les deux. Extérieurement, ils font la même chose. Ou à peu près la même chose, parce qu'il peut y avoir des moments où ça coince. Puis vous coupez la musique, il y en a un qui s'arrête de danser, l'autre qui continue. Mais le premier danse en réponse à la musique qu'il entend. Le deuxième danse parce qu'il fait un effort pour ça et ça correspond à rien. Extérieurement, ça ressemble énormément. Mais en réalité, ce n'est pas du tout la même chose qu'ils font. Notre activité est censée être une réponse à la grâce de Dieu. Et il peut nous arriver de mener notre vie chrétienne en ayant coupé la musique, mais en continuant à danser. Il peut nous arriver de penser que la vie chrétienne, c'est l'évangile pour les non-convertis, l'évangile à la conversion. Et puis une fois qu'on a passé ce cap, il faut passer à quelque chose d'autre, la sanctification par exemple. C'est aussi idiot que de dire « il faut d'abord écouter la musique, ensuite on arrête la musique et on danse ». L'évangile n'est pas réservé aux non-croyants. Il n'y a pas plus loin, plus haut ou plus profond que l'Évangile. C'est l'Évangile qui doit être la source, la racine de nos efforts. Et si nous nous coupons de l'Évangile, eh ben, au bout d'un moment, notre intimité avec Dieu va s'en ressentir. Nous n'aurons plus cette joie. Et il ne faut pas s'étonner si à un moment donné, nous aurons l'impression de vivre plus une vie d'esclave qu'une vie de fils ou de fille de Dieu. C'est dans l'intimité avec Dieu, avec le Dieu de l'Évangile, qu'il nous faut puiser l'énergie et la motivation pour servir Dieu. Et je pense que nous ferions bien de nous souvenir de cette belle parole de Martin Luther. « Dans mon cœur, en effet, ne règne qu'un article unique, c'est la foi de Christ. C'est de là que découle toute ma méditation théologique. C'est par là qu'elle passe et c'est là qu'elle débouche jour et nuit, dans son flux et dans son reflux, sans que d'une sagesse si haute, si large et si profonde, je sois d'ailleurs parvenu à saisir plus que quelques fragiles et pauvres prémices des miettes. Si nous n'en sommes qu'aux miettes de l'Évangile, par pitié, ne pensons pas que nous avons appris la leçon de l'Évangile et que nous sommes capables de passer à autre chose. L'Évangile, c'est pour, quand on n'est pas chrétien, pour le devenir, pour quand on se convertit, pour quand on mène cette vie chrétienne sur la terre, et j'ai envie de dire pour toute l'éternité, parce que comment est-ce que nous est décrit Jésus que nous contemplons dans l'éternité, dans l'Apocalypse, comme l'agneau. Nous aurons toute l'éternité sous nos yeux, l'agneau. Et l'agneau, c'est l'Évangile. C'est celui qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même pour nous. Donc l'Évangile, c'est pour maintenant et c'est pour toujours. Et l'une des choses qui peut faire que nous puissions avoir l'impression de perdre l'intimité avec Dieu, c'est quand nous pensons que nous avons à aller plus loin que l'Évangile. Deuxième cas dans lequel nous pouvons perdre l'intimité avec Dieu ou penser que nous avons perdu l'intimité avec Dieu. Il arrive que le péché se réinstalle dans la vie du croyant. Alors, c'est pour ça que je disais les deux premiers se ressemblent, parce que c'est un péché que de se détourner de l'Évangile. Mais là, je veux parler d'autre chose. Aucun d'entre nous n'est parvenu à un état où il ne pêche plus. Nous péchons tous, et nous péchons tous plusieurs fois par jour. Et en fait, ce sont même souvent les mêmes péchés que nous commettons. C'est pas normal, mais c'est comme ça, et c'est à ce à quoi nous sommes censés nous attendre jusqu'à la fin de notre vie, même si nous sommes aussi censés progresser. Mais il arrive aussi, et là c'est plus inquiétant, que nous nous accommodions de la présence du péché dans notre vie. Que nous laissions peut-être un péché ou un état de péché se réinstaller. Nous avons été libérés de la domination du péché, mais nous recommençons à vivre comme des esclaves que nous ne sommes pas. Et dans de telles circonstances, nous attristons l'Esprit de Dieu. Or, nous avons vu ce matin que c'est par l'Esprit que nous vivons concrètement notre intimité avec Dieu. C'est par l'Esprit que nous invoquons Dieu en disant « Abba, Père ». Et quand nous attristons l'Esprit de Dieu, je crois que nous pouvons dire qu'il arrive que, si on peut dire les choses ainsi, le Saint-Esprit retienne de manière plus ou moins importante son témoignage. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais si nous disons au péché « c'est bon, je suis d'accord pour que tu aies une place dans ma vie », il se peut que le Saint-Esprit retienne un peu, ou même beaucoup, son témoignage. Et plusieurs passages de la Bible décrivent l'expérience de celui qui se trouve dans cette situation. Sans doute le plus marquant, c'est le psaume 32. Après avoir confessé son péché à Dieu, David revient sur son expérience lorsqu'il était dans la faute. Et il dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée car nuit et jour ta main pesait sur moi. » Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Là, l'intimité avec Dieu, elle en a pris un coup. Et pendant un temps, David avait péché et il s'est tu, c'est-à-dire il n'a pas demandé pardon à Dieu. On ne sait pas quand ce psaume a été écrit. Peut-être il a été écrit suite à cette chute particulièrement grave que David a faite avec Bathsheba et Uri. On sait que David a couché avec une femme qui n'était pas la sienne et qu'ensuite il a fait mourir son mari par l'épée. Nous savons qu'il s'agit là de deux péchés particulièrement graves. Mais ce sur quoi je voudrais attirer votre attention cet après-midi, c'est sur le facteur temps dans cette histoire. C'est beaucoup plus long que ce que nous pourrions penser si nous ne prêtons pas attention au texte. David voit une femme, il la convoite, il la fait venir dans son lit. Après, le texte nous dit que cette femme lui fait savoir qu'elle est enceinte. C'est passé un certain temps. Hein. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on sait qu'une femme est enceinte. Pendant tout ce temps-là, David ne s'est pas repenti. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a passé ses semaines dans une situation un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il se repent? Non. Il fait venir l'officier qui est le mari de cette femme pour essayer de s'arranger pour que cet homme couche avec sa femme et qu'on puisse croire que l'enfant est du mari légitime. Un nouveau péché. Ça prend du temps. Et le mari résiste. Et d'ailleurs, il résiste d'une manière qui aurait pu aiguillonner un peu David. Il lui dit, l'armée d'Israël campe en rase campagne et moi j'irai chez moi et je vivrai de manière confortable et j'irai coucher avec ma femme. C'est un peu une manière de dire à David, et toi au fait, qu'est-ce que tu fais dans ton palais pendant que le peuple est à la guerre? Mais David ne saisit pas la perche. Il va faire tuer son officier. Le temps passe, Bathsheba accouche et recueille l'enfant. Dans un calcul normal, il y a au moins 9 mois qui se sont passés. Environ 9 mois qui se sont passés. 9 mois, c'est long, hein, pour un croyant. On n'est pas sur des, entre guillemets, petits péchés. On ne sait pas combien de temps se passe avant que Nathan vienne et que l'enfant meure. On pense que c'est quand même, il était encore bébé. Mais il n'y a pas de raison forcément de penser que ça s'est passé les 2-3 jours après la naissance. Il y a peut-être encore un peu de temps qui s'est passé. En tout cas, il y a des mois et des mois et des mois et des mois qui se sont passés, pendant lesquels certainement l'intimité de David avec Dieu a dû en prendre un coup. C'est grave, mais ça nous montre que ça arrive. Et ça peut arriver encore aujourd'hui. Ça, c'est un aspect de ce qui peut se passer quand le péché se réinstalle dans la vie du croyant. Il peut arriver que donc, nous fassions une place au péché. Il y a un autre aspect de ce sujet du lien entre péché et intimité avec Dieu qui n'est pas forcément facile à aborder pour moi, mais que je pense que la Bible en parle assez nettement. C'est la façon dont nous vivons nos relations avec les autres. Et en particulier avec les autres qui sont dans une relation de vulnérabilité à notre égard. Dans Ésaïe 58, le prophète s'adresse au peuple d'Israël qui jeûnait, qui cherchait Dieu tous les jours, qui voulait connaître ses voies, qui demandait à Dieu des arrêts justes, qui désirait son approche. Et Dieu reproche à son peuple de joindre le jeûne, une pratique qui, soi-disant, voudrait dire « je veux m'approcher de toi dans l'intimité avec toi », avec la maltraitance envers ses subordonnés et le manque d'action à l'égard des pauvres. Et Dieu fait des promesses d'intimité extraordinaires à son peuple si son peuple change de comportement. Il lui dit « alors tu appelleras ». Et l'Éternel répondra, tu crieras, et il te dira, me voici. Vous voyez, la manière en fait dont le peuple traite ses ouvriers, ou dont il s'occupe ou il ne s'occupe pas des pauvres, ça a un rapport avec l'intimité avec Dieu. Et ce qui est dit des ouvriers et des pauvres peut être étendu à toute personne en situation de vulnérabilité par rapport à nous. Nous nous retrouvons tous, à un moment ou à un autre, en situation de force par rapport à quelqu'un. Même les plus faibles se retrouvent à un moment ou à un autre en situation de force à l'égard de quelqu'un d'autre. On pourrait multiplier les exemples, et ça commence très tôt dans la vie. Régulièrement dans une école, dans la cour de récréation, il y a un qui est plus faible et tout le monde est contre lui. Il y a toujours quelqu'un qui, à un moment ou à un autre, va être faible par rapport à nous. Il y a les relations de travail, les relations hiérarchiques au travail. Il y a les relations de couple. Il y a les relations avec les enfants. Et je pense qu'on peut souligner, comme un sujet particulièrement important, le sujet de la maltraitance des femmes. Une déclaration évangélique récente qui s'appelle « L'engagement du Cap » mentionne ce problème. Je voudrais vous lire ce texte. Je pense qu'il peut nous faire réfléchir. Toute forme de maltraitance sur la personne de son partenaire dans le couple, orale, émotionnelle ou physique, est incompatible avec l'amour du Christ. Et cela, quelle que soit la culture. Nous refusons qu'une quelconque coutume culturelle ou qu'une interprétation biblique dévoyée puisse justifier de battre sa femme. Nous déplorons de rencontrer cela chez des chrétiens pratiquants, y compris des pasteurs et des responsables. Nous n'hésitons pas à le dénoncer comme un péché et à appeler à se repentir d'une telle pratique et à y renoncer. Il y a un texte de la première lettre de Pierre qui dit « Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme, en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Honorez-les comme co-héritières de la grâce, de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Il faut être fou pour penser qu'on peut battre sa femme et qu'on peut ensuite s'approcher de Dieu dans la prière et vivre l'intimité avec lui. Et même sans aller jusqu'à la maltraitance physique, et même en élargissant au-delà de la question des relations dans le couple, je pense qu'il y a beaucoup d'abus de pouvoir dans nos relations qui sont susceptibles de faire obstacle à nos prières, de brouiller notre intimité avec Dieu. Nous devons faire attention à cette idée qu'on dit parfois un peu légèrement « l'être est plus important que le faire ». Oui, d'accord, mais il y a des manières de faire qui peuvent brouiller pour de vrai l'intimité avec Dieu. Et j'attire votre attention sur l'importance de soigner vos relations avec les personnes qui sont en relation de vulnérabilité avec vous. Et vous en aurez forcément, à un moment ou à un autre. Ici, c'est le thème de l'image de Dieu et de l'union du Christ au plus petit des siens qu'il faut considérer. Nous ne pouvons pas prétendre rechercher l'intimité avec Dieu et mépriser son image quand nous la rencontrons chez notre prochain. En particulier, quand ce prochain est un frère ou une sœur en Christ. Et même si ce prochain n'est pas un frère ou une sœur en Christ. Donc, il peut arriver que nous ayons l'impression de perdre l'intimité avec Dieu quand nous cherchons à aller plus loin que l'Évangile ou quand nous laissons le péché se réinstaller dans notre vie. Et il y a un troisième point dont je voudrais parler et auquel je tiens beaucoup, parce que je pense qu'on n'en parle pas suffisamment dans nos églises. Il arrive qu'un croyant soit amené à marcher dans les ténèbres. Jusqu'ici, nous avons parlé de cas dans lesquels ce qui trouble notre intimité avec Dieu est lié à notre faute. Mais il arrive que même celui qui craint Dieu marche dans les ténèbres. Ou qu'on ne puisse pas expliquer les difficultés que nous rencontrons dans notre intimité avec Dieu uniquement par des choses qui relèvent de la faute ou du péché ou d'une faute qui persiste dans notre vie. Il n'y a pas forcément un péché qui explique que nous ayons l'impression d'avoir perdu l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas comme ça non plus. Ou en tout cas, ce n'est pas non plus forcément à cause d'une faute qui persiste. Je veux dire, nous vivons dans un monde déchu. Et je voudrais vous dire une chose très importante, c'est que nous ne sommes pas égaux dans le poids qui pèse sur nos épaules du fait que nous vivons dans un monde déchu. Nous ne sommes pas égaux dans le poids qui pèse sur nous du fait de circonstances extérieures, du fait de l'état de notre corps. On n'est pas tous avec le même bagage. Il y a des gens qui naissent dans un pays pauvre, avec toutes sortes de difficultés, ou dans un foyer dysfonctionnel, avec toutes sortes d'autres difficultés. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Nous ne sommes pas tous égaux dans le poids qui pèse sur nous du fait que nous vivons dans un monde déchu à cause des circonstances extérieures, de l'état de notre corps, et du fait que notre être intérieur peut lui aussi avoir été tordu. Peut-être à cause d'un péché, peut-être pas. Et parfois, nous nous retrouvons dans des situations difficiles à cause de fautes, et même quand ces fautes ont été pardonnées, elles laissent des traces dans notre âme, dans notre corps ou dans nos conditions de vie. Devenir chrétien ou être pardonné ne nous délivre pas automatiquement de toutes les conséquences du péché. Ne nous délivre pas automatiquement de toutes les conséquences de notre péché. Ne nous délivre pas automatiquement de toutes les conséquences du péché des autres, de nos proches. Ne nous délivre pas automatiquement de toutes les conséquences du fait que l'humanité a péché, de manière plus générale. Et tout cela peut peser très lourdement sur notre capacité à vivre consciemment l'intimité avec Dieu. Pour certains d'entre nous, c'est très difficile de vivre l'intimité avec Dieu. Pour ça, je peux imaginer que des gens qui ont été abusés par leur père ont beaucoup de mal à comprendre ce que ça veut dire « Abba, Père ». Ce n'est qu'un exemple parmi une multitude d'autres que l'on pourrait donner. Je voudrais encore citer un texte, vous comprendrez que j'aime beaucoup Luther, de Martin Luther à l'un de ses amis les plus proches, qui s'appelait Melanchthon. Écoutez la manière dont il parle. J'entends pas beaucoup de chrétiens dire les choses comme ça aujourd'hui. Et peut-être, alors est-ce que c'est parce que les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas assez francs, ou est-ce que c'est parce qu'ils ne vivent pas la même chose? Mais écoutez ce qu'il lui dit. « Toute la semaine, et plus encore, j'ai été ballotté dans la mort et dans les enfers, si bien que maintenant encore je suis atteint dans mon corps tout entier et que je tremble de tous mes membres. J'ai totalement perdu le Christ. Et j'ai été secoué par des flots et des tempêtes de désespoir et de blasphème. » Imaginez un pasteur vous dire ça. J'ai été secoué par des flots de désespoir et de blasphème. Mais touché par les prières des saints, Dieu a commencé à prendre pitié de moi et à arracher mon âme à l'enfer le plus profond. Ne cesse pas toi non plus de prier pour moi comme je prie aussi pour toi. Je crois que mon combat sert aussi à d'autres. Et je crois que c'est vrai. Et je crois que 500 ans après, ce que Luther a souffert sert encore à des gens. Ces expériences de nuit spirituelle se trouvent dans la Bible. Et je pense qu'il y a quelque chose de cela dans le texte des Lamentations que nous avons lu tout à l'heure. Dans certains passages de la Bible, la détresse et la souffrance fait dire des choses aux hommes de Dieu qui nous peuvent nous sembler aller extrêmement loin. Je pense à la fin du psaume 39 où le psalmiste dit carrément à Dieu « Éloigne-toi de moi, détourne de moi le visage pour que je puisse souffler un peu. » Vous voyez dans le texte que nous avons lu tout à l'heure dans Lamentations 3, comment les choses oscillent entre confiance en Dieu, désespoir et interrogation. Dieu sera-t-il de nouveau favorable? Dieu aura-t-il pitié de nous? C'est ma conviction que Dieu ne laisse pas ses enfants perdre leur salut et que Luther n'avait pas vraiment perdu le Christ. Mais c'est aussi ma conviction que Dieu laisse parfois ses enfants perdre l'assurance de leur salut. Ou qu'il les fait parfois attendre avant de leur donner l'assurance de leur salut. Parfois, il leur cache sa face et il les laisse marcher dans les ténèbres. Nous ne sommes pas très habitués à entendre parler de cela dans les églises évangéliques en France. Et c'est vrai qu'on trouve sans doute plus d'exemples de cela dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Mais la Bible nous dit que l'Ancien Testament a été écrit pour notre consolation. Donc on doit pouvoir trouver quelque chose pour nous dans ces textes de l'Ancien Testament. Et je pense que même dans le Nouveau Testament, vous avez quelques pointes qui laissent penser que oui, quand l'apôtre Paul dit qu'il faut soutenir ceux qui sont abattus, consoler les faibles, il nous fait comprendre que la vie chrétienne, c'est pas forcément simple pour tout le monde tous les jours. Et l'expérience chrétienne des siècles montre la réalité de ces nuits spirituelles que certains chrétiens ont expérimentées, parfois pendant des jours, des semaines, des mois ou des années. Quel chemin pouvons-nous indiquer à celui ou à celle pour qui l'intimité avec Dieu semble avoir disparu? Qu'il s'agisse de quelqu'un pour qui l'intimité avec Dieu semble avoir disparu par sa faute ou pas, en cherchant à dépasser l'évangile ou en laissant le péché se réinstaller dans sa vie, ou pour une autre raison. C'est une question très difficile. Et je ne peux que donner une ou deux pistes pour la réflexion en conclusion. Et je dirais qu'il s'agit d'abord et avant tout de retrouver et ressaisir le fil de la foi. Et peut-être que ça peut vouloir dire quelque chose d'un peu différent pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu nous a touchés les uns et les autres de manière différente. Revenez là où Dieu vous a touché. C'est peut-être l'une des choses qu'on peut apprendre des nombreux appels bibliques à se souvenir. Le souvenir est un des thèmes très importants dans toute la vie. Souviens-toi de ce que Dieu a fait. J'ai envie de vous dire, souvenez-vous de ce que Dieu a fait dans votre vie. Ce ne sera pas la même chose pour vous et pour moi. Et essayez de reprendre le fil de la foi à cet endroit-là. Et plus important encore, souvenez-vous de Jésus. Ô Galates insensés, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié ? La prédication de l'Évangile, c'est comme si on nous mettait Jésus devant les yeux. Revenez là. Souvenez-vous de Jésus. Revenez à Jésus. Recherchez la parole qui parle de Jésus, et peut-être la parole qui parle de Jésus le plus explicitement, et celle qui, dans la Bible, parlant de Jésus, vous touche le plus. Revenez là, recherchez à cet endroit-là. La deuxième chose que je dirais, c'est qu'il peut être nécessaire d'apprendre à redire « peut-être », et de ne pas forcément chercher tout de suite la libération immédiate. Dieu peut accorder la libération immédiate, mais des fois, il faut apprendre à dire « peut-être », comme dans le texte des Lamentations que nous avons lu tout à l'heure. Peut-être y a-t-il de l'espoir. Et c'est déjà beaucoup quand quelqu'un qui est désespéré en arrive à dire « peut-être y a-t-il de l'espoir ». Peut-être Dieu sera-t-il à nouveau favorable. Apprendre à attendre. Attendre que Dieu revienne. Attendre qu'il fasse grâce de nouveau. Se repentir aussi si on a péché. Et là aussi, apprendre à attendre. Apprendre à dire comme David, « Rends-moi la joie de ton salut. » C'est Dieu qui rétablit l'intimité avec lui. Quand il veut et comme il veut. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a promis qu'il le fera. Et je voudrais conclure en vous lisant deux extraits du livre du prophète Michée, au chapitre 7. Et écoutez ces paroles comme étant une partie de la réponse de la Bible à la question « Comment est-ce qu'on fait pour retrouver l'intimité avec Dieu quand on semble l'avoir perdu ?» Je vais lire deux extraits du chapitre 7 du prophète Michée. « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je tombe, je me relève. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. » Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui. Jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me fera sortir à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte, elle qui me disait « Où est l'Éternel, ton Dieu ?» Mes regards s'arrêteront sur elle. Maintenant, elle est foulée aux pieds comme la boue des rues. Qui est Dieu comme toi, pardonnant la faute et passant sur le crime en faveur du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bienveillance. Il aura encore compassion de nous. Il mettra nos fautes sous nos pieds. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bienveillance à Abraham, comme tu l'as juré jadis à nos pères.